Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Que c'est beau le printemps et le pays. Que c'est beau la révolution.
Qu'est-ce que vous avez là comme dossier ?
Oh, j'en ai plein. Plein. Et des dossiers vraiment. Il y a des, bien sûr les martyrs de la révolution, les personnes qui sont décédées, donc les familles sont là. Elles n'attendent pas une aide matérielle ni rien du tout. Elles veulent la vérité. Elles demandent la vérité. Elles veulent, les familles veulent savoir qui a tué leurs enfants. Elles veulent les responsables. Il y a plein de personnes aussi qui se sont trouvées handicapées parce qu'elles ont reçu une balle, parce qu'elles ont été tabassées. Donc on a des victimes de toutes sortes, malheureusement. Et ce n'est pas facile. C'est très, très dur, même sur le plan humain, à écouter tous ces gens-là. Vous voyez ma tête. Donc, et on sent que les gens ont besoin de parler.
Justice et justicier, c'est le quatrième volet de cette mini-série d'été. Nous sommes en Tunisie. Rendre justice, dire la vérité, rétablir les faits, laver l'honneur souillé et restituer au passage les biens qui ont été spoliés par ce qu'on appelle déjà ici l'ancien régime. C'est à tout cela, rien de moins et encore à bien d'autres tâches que s'attelaient les trois commissions mises en place par le gouvernement provisoire tunisien au lendemain de la révolution en 2011. Chaque étage a sa commission, chaque étage son interminable file d'attente. On prend un numéro, on patiente en serrant très fort l'enveloppe en papier kraft qui contient sa vie et sa vérité. Au début, ce sont par centaines qu'ils se sont pressés ici. Maintenant, le flux est moins chaotique, mais plus régulier. La vérité et la justice prendront leur temps, mais adviendront. Au premier étage, il y a la commission d'investigation sur les malversations et la corruption, créée le 18 février 2011 et censée confronter les anciens dirigeants du régime Ben Ali associés à des actes de corruption dans les secteurs économiques, financiers, bancaires, douaniers, fonciers, agricoles, touristiques. Autant dire, une commission qui a du boulot. Au deuxième étage, c'est la commission sur les violences commises pendant la révolution tunisienne qui est censée livrer un rapport sur les exactions. Elle a déjà auditionné au moment où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire en 2011, plus de 700 personnes. Enfin, au troisième étage, la commission supérieure des réformes politiques et de la transition démocratique est censée fabriquer la nouvelle Tunisie, tant sur le plan constitutionnel que juridique. Elle doit aussi planifier les élections et organiser une assemblée constituante. Ces trois commissions, dont on peut deviner qu'elles sont assez occupées, sont régulièrement remises en cause et leur président accusé d'avoir collaboré avec le régime de Ben Ali. C'est le principe et le paradoxe de la dégage attitude des printemps arabes. En attendant une commission sur les commissions, le travail avance, les citoyens arrivent avec des dossiers remplis de colère et d'espoir qu'ils ouvrent pour nous, étage par étage. C'est les pieds sur terre, quartier d'été, justice et justicier. Nous sommes en 2011 en Tunisie.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc là, on est dans les anciens locaux de la Banque de l'Habitat. Donc la banque a déménagé et ce sont les commissions d'enquête sur la dictature qui ont pris place dans les locaux. Alors en bas, il y a plein de gens qui attendent pour déposer des dossiers. Donc là, on est au deuxième étage. On est à l'étage de la commission d'investigation sur la corruption. Voilà, c'est vous, monsieur, qui recueillez tous ces dossiers-là? Vous avez l'air complètement débordé par les papiers et les...
Oui, bon, actuellement, c'est ça va, ok, c'est pas très encombré, mais...
Pourtant, il y a des tonnes et des tonnes de papiers et de...
Les
premiers jours, en fait, tout le monde a pensé que c'est nous qui va résoudre tout
tous les problèmes, et tous les genres de problèmes. Donc il y avait plein de monde ici et des tonnes de dossiers. Il y avait même des gens qui demandent d'avoir une maison ou une autorisation de taxi ou des permis de conduire.
Mais même là, on fait le dossier, les bases, la base, la base. J'aime des dossiers très importants.
Il y a des gens qui portent plainte contre, bien sûr, le clan Ben Ali et les Trabissi parce qu'on leur a volé leur hôtel, usine, maison. Il y a des régions qu'on ne connaissait pas avant et qu'on a découvert à travers cette commission.
Au début, comme tout travail, au début, on était vraiment manétable,
au début, en fait, on était un peu choqués, avec une grande émotion, puisque tous les gens qui viennent, ils déposent le dossier, ils commencent à raconter leur histoire. Donc, on n'arrivait même pas à dormir en pensant à tous ces problèmes et à tous ces gens-là qui souffrent. Mais actuellement, on commence petit à petit à nous habituer à cette situation et on commence à nous concentrer encore plus sur les dossiers pour trouver des solutions et pour les classifier.
Bon, disons, j'espère bien qu'un jour ce bureau se ferme et tout. Ça montre bien qu'on a résolu tous les problèmes. Même moi, j'ai été touché indirectement par la famille Trabelsi. On est tous touchés.
Vous avez déposé votre dossier, ça y est ?
طيب تو حطيت الدوسي في تقصي الحقائق وديجا قعدت بهتا هي قالت لي كيفاش حالك كيف ما هكايا سكت عليها قلت لها
je viens de déposer mon dossier à la commission d'investigation sur la corruption et déjà la dame qui m'a accueillie elle était surprise parce que elle m'a dit comment tu as subi toute cette injustice donc maintenant je peux parler je peux déposer ma plainte et voilà mon dossier
نحن كنا نسكنوا 12 عائله في فين البالي تو في البالي نتاع البريزيدون غاديكا
On était 12 familles dans le même endroit où le président déchu a choisi de bâtir son château et il nous a chassés de nos maisons en 1999. Oui, on était à Sidi Bouzaïd depuis 1914, donc on est très ancien à Sidi Bouzaïd et quand on nous a chassés de nos maisons. Ils nous ont donné d'autres maisons très très petites, pas bien équipées, qui ne peuvent pas compenser nos maisons de Sidi Bouzaïd. Et c'était dans un quartier populaire à la Marsa qui s'appelle Bahr el-Azraq. Les négociations ont duré 12 ans et à chaque fois ils nous disent voilà, nous avons pour vous des maisons à Hammam Lif, à Zahra et puis sous la pression et la pression a vraiment été forte dans les dernières années pour nous dire que voilà, nous avons des maisons pas loin de Sidi Bouzaïd à la Marsa et c'était le Bahr el-Azraq. Mais au début nous avons refusé carrément ce chantage. Et à la fin, nous étions terrorifiés par les forces de Ben Ali et personne ne pouvait dire non à cette époque.
Il y a une longue file d'attente devant un petit bureau.
Je m'appelle Mavrouka Dridi, professeure de français retraitée. Mes parents possédaient 1126 hectares de terre à Boussalem. 1126 hectares. Comme ça, pour le plaisir de l'ancien régime, c'était en 1987, on nous a dérobé toute la terre pour la donner à 5 fils de ministres. Donc maintenant, j'ose demander, l'OTD, vous savez qu'est-ce que c'est l'OTD ? L'Office des terres domaniales. Vous avez beaucoup de terre, elle vous l'arrache, elle vous la dérobe, comme ça, par force, injustement, pour la donner à ceux qui étaient dans l'ancien RCD. Pour 99 ans, ils ont loué notre terre pour 99 ans, c'est-à-dire que impossible de la reprendre. Vous savez combien on les loue, je crois, un dinar l'hectare. Vous vous rendez compte un hectare combien ça vaut à un dinar par an. Donc, on nous a mis dehors, Moi, j'enseignais encore à Boussalem. J'ai voulu protester. Il y a les agents de, comment on appelle, les gardes nationales étaient venus me prendre. On m'a dit, où vous restez en tant que... parce que j'étais première vice-présidente à la municipalité de Boussalem. Ou vous restez en tant que conseillère, ou vous sortez et vous allez directement en prison. J'étais obligée de me taire. Mes enfants étaient en bas âge. Je ne pouvais pas me risquer d'aller en prison. J'ai laissé tomber. Notre terre, c'est la plus belle terre, la plus fertile de toute la région tunisienne. Il fallait voir les orangeries, des oranges comme ça, très juteuses. C'est incroyable, les oliviers, et je ne sais pas, les cinq fils, ils sont en train d'exploiter la terre seulement pour l'import et l'export. C'est pas la terre, ils n'ont pas hérité cette terre, ils n'ont pas acheté cette terre, ils n'ont rien fait pour avoir cette terre. Ils l'ont dérobée. C'est tout. Alors là, moi, j'ai assisté une fois à une scène. Ils faisaient rôtir des agneaux sur le feu du bois. Vous voyez, vous savez, le rôtissoir là, du poulet. Alors là, ce n'est pas du poulet, c'est tout un agneau qu'on faisait rôtir sur le feu du bois, en plein air, près de la rivière. Nous avions une très belle rivière, très claire. Alors j'ai vu une scène qui m'a fait mal au cœur.
Pourquoi ça vous a fait mal au cœur ?
Bien, c'est notre terre. Ils viennent pour profiter de nos richesses. Mais à présent, après la révolution de la dignité, j'ose crier « Rendez-nous notre terre
oui. ». Vous pensez qu'il va se passer quoi alors là ?
Ils vont nous rendre notre terre. J'ai grand espoir quand même. Je suis très optimiste parce que ça se voit, c'est clair. On a les papiers, on a tous les papiers. Notre terre, là où on a mis tous les noms des propriétaires, sont écrits sur une peau de bœuf. Une peau de bœuf, c'est-à-dire que ça existe, nous avons ce papier. Donc je voudrais ranimer, je voudrais faire revivre nos origines, reprendre mes origines, retourner à ma terre natale. Je suis née à Boussalem. On vivait dans l'enfer. La Tunisie était un pays infernal. Et maintenant, moi, je me vois dans un paradis. Même si on ne me rend pas ma terre, ça ne fait rien. Mes petits-enfants... Ils vont vivre heureux sur une terre de démocratie. Ça ne fait rien, on n'a pas besoin de terre. Au moins, je suis tranquille. Maintenant, moi, je vais mourir tranquillement. Personne ne fera du mal à mes petits-enfants. Ils seront heureux, ils mèneront vraiment une vie juste.
Là, on est au troisième étage. La commission sur la révolution... Il y a quatre dames dans la salle d'attente qui discutaient. De quoi vous discutiez ?
Les enfants qui s'est frappé بالعربي نحكي الاولاد اللي ضربوا لي بالكارتوش اللي تضرب بالمطرق ولدي تضرب بالكروس نتاع السلاح في راسه ولدي تاو باش يتوجه طبيب نفساني.
Nous sommes les mères des enfants qui étaient blessés lors de la révolution. Aujourd'hui, j'ai ramené mon fils au gouvernorat et on ne l'a pas accepté, je ne sais pas pourquoi. Donc je porte plainte aujourd'hui à la commission d'investigation de la révolution.
Mon fils, il a 13 ans.
Quand on l'a frappé, il est devenu agressif, il a des difficultés, des problèmes psychologiques et il ne veut plus aller à l'école, donc j'ai des problèmes. Ce qui s'est passé exactement, c'est que mon fils était à l'avenue Lahmi Bourguiba, à un certain moment, tout le monde manifestait et tout, ça a été un peu calme, et puis lors de à un certain moment, la tension, bien sûr, entre la police et il y a eu des confrontations et à ce moment-là on a frappé mon petit-fils sur la tête et voilà. Ses amis l'ont ramené chez moi et il était trempé avec le sang partout et dans la même nuit, il a subi deux opérations sur la tête.
Ce
que j'attends effectivement, c'est que cette commission parle à notre nom et défend nos droits. Par exemple, mon fils, il dit que s'il voit le policier qui l'a frappé, il le reconnaît directement. Donc on n'attend que ça.
France Culture, les pieds sur terre.
اسمع شنو هو انكور اسمع قول لها شكون يخدم الورق هذوما قول لها تخلي لي سباس هكا قول لها ما عشان لي سباس صغير قول لها ياسر صغير فرح خارج من الاخرين الكل خارجون يقول لها سباس كبير شي بشرى بالحاج حميده شي افوكات اسمع كارير مي جو سوي ميليتانت بور لي دروا دي فام جي ايتي بريزيدانت دو لاسوسياسيون تونيزيان دي فام ديموكرات. Et je fais de l'orientation juridique dans le centre d'écoute des femmes victimes de violences. Donc c'est pour ça que je me sens quand même outillée, mais pas pour autant de dossiers, pas pour écouter autant de personnes, et surtout pour leur donner le temps nécessaire, parce que c'est un cadre assez spécial pour eux. C'est quand même un cadre qui leur donne de l'espoir pour l'établissement de la vérité et pour la réparation. Parce qu'il y a deux choses qui vont ensemble, c'est la vérité et c'est la réparation. Et on sent que les gens ont besoin de parler. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on va réviser nos demandes en écoute. Parce que jusque-là, on s'est contenté des membres de la commission. Mais je pense qu'il est très urgent qu'on ait de vrais écoutants et de vraies écoutantes. Parce que les gens sont là, ils sont choqués parce que ils vous disent moi je suis resté un mois, je ne suis pas venu, j'ai attendu qu'il y ait moins de personnes pour pouvoir prendre mon temps, pour vous raconter les détails, et voilà, vous êtes pressés, etc. Donc vraiment, les gens ont besoin d'écoute et d'une vraie écoute, un vrai accompagnement. Mais je suis frustrée au niveau du temps. Je trouve que c'est trop peu, c'est-à-dire que humainement, on ne peut pas garantir une bonne écoute, surtout pour les personnes qui ont perdu un être cher. Donc imaginez tout le travail qu'il y a à faire pour que les gens puissent, commencer à faire leur deuil, à constater que cette révolution pour laquelle ils ont payé cher parce qu'ils ont donné leurs enfants, leur est reconnaissante. Et ça, c'est pas facile du tout comme travail. On se sent vraiment redevable. Sans eux, je pense pas qu'on ait pu avoir ce que nous avons eu, c'est-à-dire la liberté. Mais en même temps, un sentiment d'impuissance extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour la vérité. Et je pense que nous allons réussir, qu'on nous ferons tous et toutes, tout pour le faire, parce qu'il y a une volonté réelle au sein de la commission pour que la vérité soit établie, que les responsables soient transférés là où il faut. Mais en même temps, il y a un sentiment de frustration parce que parfois il y a des attentes urgentes, il y a des demandes urgentes. On a reçu des hommes d'affaires qui avaient des usines qui ont été brûlées, incendiées, et qu'aujourd'hui, non seulement eux sont privés de leur bien, mais derrière eux, il y a des dizaines de familles. Donc, c'est pas facile à gérer tout cela.
Raconte-moi, Akram. Le 13 janvier. Je travaille à la station Mandela. Oui, je suis coiffeur. Donc il y avait des manifestations et des bombes lacrymogènes partout. On était asphyxiés dans la boutique avec les bombes lacrymogènes et le gaz.
On est arrivé à la lacrymogène et on a fermé la boutique.
On a fermé et on voulait rentrer chez nous, mais il n'y avait pas de transport. J'ai trouvé qu'il y a des confrontations violentes et j'ai même vu un homme qui était déjà mort. Donc les morts, il y avait aussi Halmi de Tlonja. Donc il y avait justement ce Halmi et aussi un autre jeune homme transporté par la police alors qu'il était gravement blessé. Ils l'ont amené devant un appartement. On a essayé, moi et avec quelques jeunes, on a essayé de le sauver. Et quand on a essayé justement de le sauver, j'ai reçu une balle dans ma jambe. Est-ce que la police vous a tiré dessus exprès ou pas? Il y avait une femme qui nous a prévenu que la police tire par des balles réelles, mais je n'ai pas fait attention. Les jeunes, mes amis, ils m'ont transporté à l'hôpital, à l'urgence. Donc j'ai fait une opération le jour même. C'était le jour du jeudi 13 janvier. La police a été très violente, même à l'hôpital. La veille du départ de Ben Hadi. Comment je vais faire maintenant? Je veux savoir c'est qui m'a tiré dessus. Je veux savoir c'est qui le responsable. Comment je vais faire? Je dois travailler. J'ai des problèmes, donc je veux avoir une réponse. Je dois connaître le responsable de ce crime.
Et voilà, on est au dernier étage. Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est le quatrième étage. C'est la commission supérieure de la réforme politique, présidée par M. Iyad Ben Achou.
Et vous, qu'est-ce que vous faites?
Secrétaire.
Nous avons beaucoup de travail, nous travaillons tous les jours, nous avons des réunions avec plusieurs partis politiques et voilà, nous sommes très occupés. Et nous préparons, nous étudions tous ce que nous devons faire comme changement dans la constitution et les articles de loi et tout, donc nous sommes en pleine préparation. C'est très important ce que nous vivons aujourd'hui, c'est très spécial. Nous sentons la liberté d'expression et de réfléchir. Et aussi ce que nous faisons aujourd'hui est très important pour le peuple tunisien. Et nous essayons de traduire la volonté du peuple dont la constitution, dont la nouvelle constitution. Donc j'espère que ça sera une nouvelle étape pour la Tunisie.
Et certaines personnes du peuple justement ont peur qu'on n'écoute pas leur ce qu'ils demandent, qu'on les écoute pas et qu'on leur confie que sa révolution.
Non, pas du tout.
Non, je pense pas. Les gens ne doivent pas avoir peur parce que nous sommes à l'écoute de tout le monde. Il y a aussi des citoyens, des simples citoyens qui viennent ici. Donc il n'y a pas pourquoi avoir peur aujourd'hui. Nous sommes dans une autre réalité.
Ah voilà, on est dans le bureau de Monsieur Ben Achou. Comment ça se passe? Où vous en êtes après quelques semaines?
Nous avançons.
Comment ça se passe un petit peu la vie au quatrième étage là?
Oui, au quatrième étage, il y a des gens parfois qui ouvrent le bureau et qui rentrent et qui me disent voilà, il ne faut pas oublier ceci. Par exemple, hier, il y a un monsieur qui a ouvert le bureau, qui est rentré, je ne sais pas comment il s'est faufilé jusqu'ici, et pour me dire, n'oubliez pas surtout, lorsque vous penserez au code électoral, n'oubliez pas les indépendants, ceux qui n'appartiennent à aucun parti, il faut y veiller, et puis il est sorti. Et puis on reçoit des lettres, on reçoit des personnalités qui viennent demander audience. Puis n'oubliez pas qu'il y a la presse, hein. Maintenant la presse est devenue libre en Tunisie, il y a beaucoup d'opinions. Sur toutes les questions que nous étudions, vous voyez là devant vous, il y a tous les dossiers de presse consultés. Aujourd'hui, c'est la presse d'hier et d'aujourd'hui, on me les découpe et je les regarde pour voir un peu quel est l'état de l'opinion. Ça m'aide beaucoup dans mes réflexions et dans ceux de la commission.
Et alors, quel est l'état de l'opinion ?
Je crois que les Tunisiens sont majoritairement d'accord sur deux choses. Une constituante, un régime parlementaire. Voilà, ça c'est les deux axes fondamentaux de leur... Peut-être il y a aussi un accord quasi unanime sur l'identité et l'égalité. L'identité arabo-islamique, mais en même temps l'égalité, et en particulier l'égalité homme-femme. Parce que ça, ce n'est pas assez précisé. Dans l'autre, la constitution actuelle parle d'égalité des citoyens, mais ne met pas assez l'accent sur l'égalité homme-femme. Et il y a beaucoup de partis et d'associations, d'organisations non gouvernementales comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme ou l'Association tunisienne des femmes démocrates qui demandent à ce que cela soit précisé.
Comment vous vivez ces moments en ce moment, vous, personnellement ?
C'est une période d'exaltation, de grand bonheur, parce que nous avons... Le peuple a réussi ce que personne ne pouvait imaginer réussir, étant donné que la dictature disposait de moyens disproportionnés par rapport à l'ensemble de la société. L'administration, le parti, l'argent, tout ce que vous voulez. Un moment de grand bonheur d'avoir pu détruire cette dictature. C'est un rêve que nous réalisons, mais aussi de grandes inquiétudes. Parce que j'ai peur que, alors que nous sommes tous d'accord sur les principes de la démocratie, d'une Tunisie réellement démocratique, j'ai peur que les conflits politiques nous amènent à nous diviser sur les voies pour arriver à ces principes. Et ça serait catastrophique. Parce que ça entraînerait une sorte d'anarchie dans le pays, et on sait ce qu'il y a derrière l'anarchie, il y a toujours la dictature. J'espère que la Tunisie évitera ces excès, et qu'elle se dirigera, quels que soient les moyens, vers et qu'elle elle fixera toujours les yeux sur l'horizon, n'est-ce pas ? C'est-à-dire atteindre réellement l'état démocratique. Les moyens importent peu. Qu'on y arrive avec une Formule 1 ou avec une charrette, ça importe peu. L'essentiel, c'est qu'on y arrive.
Les pieds sur terre, quartier d'été, justice et justiciers, c'était une émission diffusée pour la première fois le 18 mars 2011, au début donc de la révolution tunisienne. Un reportage de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Nathalie Battus depuis 2011. Sachez que la première commission existe toujours et que l'instance Vérité et Dignité, qui est l'emblème de la justice transitionnelle, a été prolongée en Tunisie d'un an. En mars 2018, donc elle a été prolongée jusqu'en mars 2019.